Chapitre 21. Les orages d'hiver vinrent tôt cette année-là. Il plut des gouttes cinglantes qui paraissaient à peine mouiller le sol. Un vent violent suivit, arrachant les feuilles des arbres en une journée. Je ne m'étais pas retrouvée seule sur mon île depuis... Je n'arrivais pas à compter. Un siècle? Deux? Je m'étais dit qu'après son départ, je ferais toutes les choses que j'avais mises de côté depuis 16 ans. Je travaillerai à mes sorts de l'aube au crépuscule, déterrerai des racines et oublierai de manger, ramasserai les tiges de saule blanc pour en tresser des paniers jusqu'à ce qu'ils s'entassent du sol au plafond. Ce serait paisible et les jours s'écouleraient tranquillement, un moment de repos. Au lieu de tout cela, j'arpentais la grève en scrutant l'horizon, comme si je pouvais obliger mes yeux à voir jusqu'à Ithac. Je comptais les heures, évaluant chaque partie de son voyage. Il serait en train de s'arrêter pour trouver de l'eau fraîche à présent, d'apercevoir l'île. Il aurait trouvé le chemin du palais et s'agenouillerait. Et Ulysse ferait... Quoi ? Je ne lui avais pas dit que j'étais enceinte après son départ. Je lui en avais si peu dit. Que penserait-il d'un enfant issu de nous deux ? Tout ira bien, me rassurais-je. C'est un garçon dont on peut être fier. Ulysse discernerait clairement ses qualités, de la même manière qu'il avait repéré le métier de Dédale. Il lui ferait confiance et lui apprendrait tous ses arts des hommes mortels, le maniement de l'épée, le tir à l'arc, la chasse, l'art de prendre la parole au conseil. Télégonos siégerait au banquet et charmerait les habitants d'Ithaque sous le regard fier de son père. Même Pénélope serait conquise, ainsi que Télémaque. Il finirait peut-être par trouver sa place à leur cour et par aller et venir entre nous pour se construire une vie satisfaisante. Et puis quoi encore, Circé ? Vont-ils aussi chevaucher des griffons et tous devenir immortels ? L'air sentait le gel, un ou deux flocons tombaient doucement du ciel. À des milliers et des milliers de reprises, j'avais arpenté les collines d'Éa, avec ses peupliers noirs et blancs qui mêlaient leurs membres nus au ciel. Ses cornouillers ou ses pommiers dont les fruits tombés se ratatinaient sur le sol, son fenouil qui me montait jusqu'à la taille, ses rochers blancs de sel séché. Au-dessus de ma tête, ses cormorans qui volaient bas, criant en direction des nuages. Les mortels aiment à dire que ces merveilles de la nature sont immuables et éternelles. Mais la vérité, c'est que l'île changeait continuellement, d'un flux infini entre les générations. Plus de 300 ans s'étaient écoulés depuis mon arrivée. Le chêne qui craquait au-dessus de ma tête, je l'avais connu au stade de jeune pousse. La grève se découvrait avant d'être de nouveau envahie par les flots et ses courbes se modifiaient à chaque hiver. Même les falaises avaient pris une forme différente, sculptées par la pluie et le vent, par les griffes des innombrables lézards qui y fourrageaient, par les graines qui s'accrochaient pour germer dans leurs cavités. Tout y était uni par le rythme calme de la respiration de la nature. Tout, sauf moi. Pendant 16 ans, j'avais ignoré cette pensée. Avec Télégonos, c'était facile. Sa petite enfance agitée avait été remplie des menaces d'Athéna, puis par ses colères, sa jeunesse en fleurs et tous les petits détails fastidieux du quotidien qu'il traînait derrière lui. Tunique à laver, repas à préparer, draps à changer. Mais maintenant qu'il était parti, je sentais la vérité pointer son nez. Même si Télégonos survivait à Athéna, même s'il parvenait à atteindre Ithaque et à en revenir, je le perdrais un jour. À cause d'un naufrage ou d'une maladie, d'un raid ou d'une guerre. Le mieux que je pouvais espérer, ce serait de voir son corps faillir peu à peu, membre après membre. Voir ses épaules se voûter, ses jambes trembler, son ventre s'affaisser. Et au bout du compte, je serais obligée de rester debout devant son cadavre aux cheveux blancs et de le regarder se faire dévorer par les flammes. Les collines et les arbres devant moi, les asticots et les lions, les pierres et les tendres bourgeons, le métier à tisser de Dédale se mettait alors tous à tanguer, comme un rêve qui s'efface peu à peu. Et au-dessous, transparaissait en filigrane le lieu où j'habitais réellement, une éternité glacée de chagrin infini. L'une de mes louves s'était mise à hurler. « Tais-toi !» lui intimai-je. Cela ne l'empêcha pas de continuer, et son cri se réverbéra sur les murs, m'égratignant les oreilles. Je m'étais endormie devant le feu, la tête posée sur les pierres de l'âtre. Je me rassis, hébétée, l'empreinte de ma couverture tatouée sur ma peau. La lumière hivernale entra par les fenêtres, froide et pâle. Elle dardait ses rayons dans mes yeux et projetait des ombres à hauteur de genoux sur le sol. J'avais envie de me rendormir. Mais ma louve gémissait et hurlait tour à tour, et je m'obligeais finalement à me lever. J'allais ouvrir la porte. « Tu es contente ?» La louve me bouscula pour sortir et fila à travers la clairière. Je la regardais partir. Nous l'appelions Arcturos. La plupart des animaux n'avaient pas de nom, mais c'était la préférée de Télégonos. Elle se dirigea vers le sommet de la colline qui surplombait la grève. Laissant la porte ouverte, je la suivis. Je n'avais pas mis de cap, et les vents ascendants de tempête me giflèrent tandis que je grimpais jusqu'au pic où elle s'était postée. Les mères étaient dans le pire de leurs états hivernaux, déchaînées, écumantes et sauvages. Seule la nécessité la plus extrême forcerait un marin à sortir par ce temps. Et pourtant, il y avait un navire qui se dirigeait vers la grève, celui de Télégonos. Je redescendis en courant, traversant en trombe les bosquets d'arbres et les buissons d'épines nues. La terreur et la joie se bousculaient dans ma gorge. Il est revenu. Il est revenu trop tôt. Un désastre a dû se produire. Il est mort. Il a changé. Il entra en collision avec moi au milieu des lauriers. Je l'empoignai, puis l'attirai dans mes bras, pressant ma figure contre son épaule. Il sentait le sel et me parut plus étoffé qu'auparavant. Je m'accrochai à lui, toute molle de soulagement. « Tu es déjà rentrée ?» Il ne répondit pas. Je levai la tête pour jeter un coup d'œil à son visage. Il était hagard, couvert de bleu et marqué par l'insomnie. Imprégné de malheur. Un sentiment d'alarme m'envahit. « Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ? » « Mère, il faut que je te dise. » Il semblait étouffé. Arcturos s'appuya contre son genou, mais il ne la toucha pas. Son corps entier était froid et rigide. Le mien était devenu glacé en même temps. « Dis-moi !» Sauf qu'il n'y arrivait pas. Alors qu'il avait raconté tant d'histoires dans sa vie, celle-ci restait coincée en lui, telle du minerai dans la roche. Je lui pris la main. « Quoi que ça puisse être, je t'aiderai. »« Non !» Il se dégagea d'une secousse. « Ne dis pas ça !» « Tu dois me laisser parler !» Il était tout gris, comme s'il avait avalé du poison. Les vents soufflaient toujours, tordant nos vêtements. Je ne sentais rien à part ces centimètres de vide entre nous. Il était parti quand je suis arrivée. Mon père. Il déglutit. Je suis allée au palais et on m'a appris qu'il était allé chasser. Je ne suis pas restée là-bas. Je me suis cantonnée au bateau comme tu me l'avais conseillé. J'acquiesçai, craignant qu'il ne s'effondre si j'ajoutais quelque chose. Le soir, j'ai marché un peu sur la plage. Je prenais toujours le javelot avec moi. Je n'aimais pas quitter le navire. Je ne voulais pas... Ses traits furent parcourus d'un spasme. C'était le crépuscule quand le navire est apparu. De taille modeste, comme le mien, mais rempli de trésors qui lançaient des éclairs alors qu'il oscillait au gré des vagues. Des armures, je crois. Des armes et des vases. Son capitaine a jeté l'ancre avant de sauter de la proue. Son regard croisa le mien. À ce moment-là, j'ai su. Même à cette distance. Il était plus petit que je ne l'aurais cru. Il avait des épaules larges comme celles d'un ours. Ses cheveux étaient complètement gris. Ça aurait pu être n'importe quel marin. Je ne peux pas expliquer comment je l'ai su. On aurait dit... que, pendant tout ce temps, mes yeux n'attendaient que cette silhouette-là. Je connaissais ce sentiment. C'était ce que j'avais ressenti le jour où j'avais contemplé Télégonos dans mes bras pour la première fois. Je l'ai appelé, mais il avançait déjà vers moi. Je me suis agenouillée. J'ai cru... Il appuyait très fort son poing sur sa poitrine, comme s'il pouvait transpercer la barrière de sa peau. Il se reprit. J'ai cru qu'il m'avait aussi reconnu, mais il criait. Il disait que je ne pouvais pas le voler et piller ses terres. qu'il allait me donner une leçon. J'imaginais le choc de Télégonos, lui qui n'avait jamais été accusé de quoi que ce soit de toute sa vie. Il courait vers moi. Je lui ai assuré qu'il se méprenait, que j'avais la permission de son fils, le prince. Ça n'a fait que le mettre davantage en colère. « C'est moi qui commande ici » s'est-il écrié. Les vents nous fouettaient, hérissant sa peau de chair de poule. Je tentais de l'entourer de mes bras, mais j'aurais aussi bien pu étreindre un chêne. Il était debout au-dessus de moi, le visage ridé et taché de sel. Il avait un bras bandé et son bandage était mouillé de sang. Il portait un couteau à sa ceinture. Son regard était devenu distant, comme s'il était de nouveau agenouillé sur cette plage. Je me souvins des bras abîmés d'Ulysse, marqués de centaines de coupures superficielles. Il aimait le combat rapproché. Prendre des coups sur les bras était bien mieux que de les prendre dans les tripes, avait-il coutume de déclarer. Son sourire dans l'obscurité de ma chambre. « Ces héros, tu devrais voir leur tête quand je me rue sur eux. » Il m'a ordonné de poser mon javelot. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas, mais il a continué à me crier de le poser, de le poser. Et puis il m'a empoigné. La scène se précisa dans mon esprit. Ulysse, avec sa carrure d'ours et ses jambes aux muscles sculptés, se précipitant sur mon fils qui n'avait pas encore de barbe. Toutes ces histoires que j'avais cachées à Télégonos me revinrent brutalement en mémoire. Celle où Ulysse battait Tersite, qui s'était rebellé, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Toutes les fois où Eurylope avait écopé d'un œil au beurre noir ou d'un nez cassé pour l'avoir contrarié. Si Ulysse avait fait preuve d'une patience infinie vis-à-vis des caprices d'Agamemnon, avec ses subordonnés, il pouvait se montrer aussi dur que les orages d'hiver. Toute l'ignorance de ce monde le rendait là. Toutes ses volontés têtues qu'il devait sans cesse contenir pour servir ses objectifs, tous ces cœurs stupides à qui il devait chaque jour enlever leurs espoirs pour satisfaire le sien. Aucun orateur ne pourrait se montrer aussi persuasif. Il devait forcément y avoir des raccourcis, et il les trouvait. Cela lui procurait peut-être même une sorte de plaisir, d'écraser une petite âme plaintive qui osait se mettre en travers du chemin du meilleur des Grecs. Et qu'aurait vu le meilleur des Grecs en mon fils? Un tempérament doux et intrépide, un jeune homme qui n'avait jamais, de toute son existence, ployé devant la volonté d'un autre. J'avais l'impression d'être une corde sur laquelle on tire mille fois trop fort. Que s'est-il passé? J'ai couru vers le palais. Ils auraient pu lui dire que je n'avais pas de mauvaises intentions. Mais il était si rapide, mère. Les jambes courtes d'Ulysse étaient trompeuses. Il était celui qui courait le plus vite après Achille. À Troie, il gagnait toutes les courses à pied. Et à la lutte, il avait aussi réussi à faire tomber Ajax un jour. Il a attrapé le javelot et m'a repoussé. Le fourreau en cuir s'est envolé. J'avais peur de lâcher. J'avais peur que... Bien que Télégonos soit devant moi, bien vivant, j'eus un accès de panique rétrospective. Il s'en était fallu de peu. Si le javelot avait dévié dans sa main et l'avait égratigné... Et c'est à ce moment-là que je compris. Son visage, pareil à un champ calciné, sa voix brisée de chagrin. Je lui ai crié de faire attention. Je le lui ai dit, mère. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il le touche. Il me l'a arraché quand même. C'était juste une égratignure. La pointe du javelot contre sa joue. La queue du trigon. L'arme mortelle que j'avais mise entre ses mains. Son expression s'est juste figée. Il est tombé. J'ai essayé d'essuyer le poison, mais il n'y avait même pas de blessure. Je vais t'emmener voir ma mère, lui ai-je dit. Elle t'aidera. Ses lèvres étaient toutes blanches. Je l'ai pris dans mes bras. Je suis ton fils, Télégonos, né de la déesse Circé. Je pense qu'il a entendu. Il m'a regardé avant de partir. J'étais sans voix. Tout devenait enfin clair. Le désespoir d'Athéna dans son armure, son air rigide, lorsqu'elle disait que, si Télégonos vivait, nous le regretterions. Elle craignait qu'il ne fasse du mal à quelqu'un qu'elle aimait. Et qui, Athéna, aimait-elle le plus ? J'appuyai ma main sur mes lèvres. Ulysse. En entendant son nom, Télégonos se recroquevilla comme devant une malédiction. J'ai essayé de l'avertir, je t'assure. Il s'étrangla, incapable d'aller plus loin. L'homme avec qui j'avais passé tant de nuits, tué par l'arme que j'avais envoyée, est dans les bras de mon fils. Les parques devaient bien rire de moi, d'Athéna, de nous tous. C'était leur plaisanterie amère préférée. Ceux qui résistent à une prophétie ne font que resserrer leur étreinte sur leur gorge. Ce piège luisant s'était refermé, et mon pauvre enfant, qui n'avait jamais fait de mal à personne, en était prisonnier. Il avait navigué vers notre île durant toutes ces heures vides, le cœur lourd de cette culpabilité écrasante. Je m'obligeai à bouger mes mains engourdies. Je le pris par les épaules. « Écoute, » repris-je, « écoute-moi. Tu ne dois pas t'en vouloir. Cet événement était destiné à arriver depuis longtemps et de 100 manières différentes. Ulysse m'avait dit un jour que son destin était d'être tué en mer. Je pensais qu'il parlait d'un naufrage. Je n'avais même pas envisagé autre chose. J'étais aveugle. » Tu aurais dû laisser Athéna me tuer. Il avait les épaules affaissées, la voix sourde. Non ! Je le secouai comme pour nous débarrasser de cette pensée mauvaise. Je n'aurais jamais pu, jamais, même si j'avais su, tu m'entends ? Ma voix était rauque de désespoir. Tu connais les histoires, Œdipe, Paris. Bien que leurs parents aient essayé de les assassiner, ils ont vécu pour affronter leur destin. Tu as toujours suivi ce chemin-là. Cette idée doit te réconforter. Me réconforter ? Il leva la tête. Il est mort, mère. Mon père est mort. Je commettais toujours la même vieille erreur, voler à son secours sans prendre le temps de réfléchir. Oh, mon fils, c'est un supplice. Je ressens la même chose. Il fondit en larmes. Contre son visage, mon épaule était trempée. Nous nous abandonnâmes ensemble au chagrin sous les branches nues pour l'homme que j'avais connu et celui qu'il n'avait pas pu connaître. Les mains larges de laboureur d'Ulysse, sa voix sèche qui décrivait avec précision les folies des hommes et des dieux, ses yeux qui voyaient tout et en révélaient si peu. Tout cela avait péri. En dépit de nos personnalités difficiles, nous avions été bons l'un envers l'autre. Il m'avait fait confiance, et réciproquement, quand il n'y avait personne d'autre. Il était la moitié de mon fils. Au bout de quelques instants, Télégonos s'écarta de moi. Ses larmes s'étaient un peu taries, même si elles allaient revenir plus tard.
J'avais espéré.
Il ne termina pas sa phrase, mais la suite était claire. Qu'espèrent donc les enfants ? S'arranger pour que leurs parents éclatent de fierté. Je savais à quel point la mort de cet espoir pouvait être douloureuse. Je posai une main sur sa joue. Les ombres des enfers apprennent les actes des vivants. Il ne t'en voudra pas. Il entendra parler de toi. Il sera fier. Autour de nous, les arbres tremblaient. Le vent avait changé de direction. Mon oncle Boré qui envoyait son souffle glacé sur le monde.
« Les enfers !» poursuivit-il. « Je n'y avais pas pensé. Il sera là-bas. Après ma mort, je pourrai le voir, le supplier de me pardonner. Nous pourrons partager tout le reste du temps, n'est-ce pas ?»
Sa voix était pleine d'un espoir saisissant. Je vis le tableau qu'il s'imaginait, le grand capitaine traversant les champs d'Asphodèle jusqu'à lui. Il s'agenouillerait sur ses genoux vaporeux et Ulysse l'inviterait à se relever d'un geste. Il déambulerait côte à côte dans la maison des morts, côte à côte, là où je ne pourrais jamais me rendre. La tristesse de cette révélation me prit à la gorge, menaçant de m'engloutir. J'aurais touché le plus nocif des poisons pour lui. N'étais-je pas capable de prononcer ces mots simples pour lui procurer un soupçon de réconfort ? Oui, c'est ce que tu feras. Sa poitrine se souleva brusquement, mais il était en train de se calmer. Il essuya ses joues striées de larmes.
Tu comprends pourquoi j'ai dû les amener. Je ne pouvais pas simplement les laisser après ce que j'ai fait. Pas quand ils ont demandé à venir. Ils sont si là, et eux aussi sont en deuil.
Moi aussi j'étais lasse, fatiguée de monter la garde, d'être ballottée de vague en vague. Qui ça ?
La reine et Télémaque. Ils attendent sur le bateau.
Les branches s'agitèrent autour de moi. « Tu les as amenés ici ?» La sévérité de ma voix le fit cligner des yeux.
« Bien sûr, ils me l'ont demandé. Il n'y avait plus rien pour eux à Ithac.
Rien ? Télémaque est roi à présent. Pénélope est la reine douairière. Pourquoi partirait-il ? » Il fronça les sourcils.
« C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aide. Comment pouvais-je remettre en question leur motivation ?»«
Comment as-tu pu être aussi crédule ?» Mon pouls battait très vite sur ma gorge. J'entendis Ulysse comme s'il était à mes côtés. « Mon fils traquera ces hommes qui m'ont mis à terre. Il dira « Vous avez osé répandre le sang d'Ulysse, et maintenant, c'est le vôtre qui va être répandu. »«
Télémaque sera obligé de te tuer !»
Il me fixa. En dépit de toutes les histoires qu'il avait entendues au sujet de ses fils désireux de venger leur père, il était surpris.
« Non, » répondit-il lentement. « S'il en avait eu envie, il l'aurait fait pendant le voyage. »«
Ça ne prouve rien !» répliquai-je d'une voix heurtée. « Son père était un homme aux mille ruses, et la première était de feindre l'amitié. Peut-être a-t-il l'intention de nous nuire à tous les deux. Peut-être souhaite-t-il que je sois témoin de ta chute. »
Quelques minutes plus tôt, nous étions enlacés. Il recula d'un pas.
« C'est de mon frère que tu parles !»
Ce mot « frère » sur ses lèvres. Je pensais à Ariane, tendant les mains vers le Minotaure et à la cicatrice sur son cou.
« Moi aussi j'ai des frères. Sais-tu ce qu'ils feraient si j'étais sous leur coupe ?»
Même sur la tombe de son père, nous continuions à nous battre comme avant. Les dieux et la peur, les dieux et la peur.
Il est le seul descendant que mon père ait laissé sur cette terre. Pas question que je le repousse.
Sa respiration rauque résonna dans l'air.
Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux au moins agir décemment. Si tu ne veux pas de nous, je m'en irai. Je les emmènerai ailleurs.
Il mettrait ses paroles à exécution, j'en étais certaine. Il les emmènerait loin d'ici. Je sentis mon ancienne rage monter, celle qui me faisait jurer de réduire le monde en cendres avant de laisser quoi que ce soit lui arriver. Grâce à elle, j'avais affronté Athéna et empêché le ciel de lui tomber sur la tête. J'avais foulé les profondeurs sans lumière. Cet immense afflux brûlant d'énergie me procura un certain plaisir. Mon esprit bouillonnait d'images de destruction. La terre disparaissant à toute allure dans les ténèbres, les îles englouties par la mer, mes ennemis transformés rampant à mes pieds. Mais tandis que j'invoquais ces fantasmes, le visage de mon fils les empêchait de s'installer. Si je brûlais le monde, Télégonos brûlerait avec lui. Je pris une grande inspiration, laissant l'air salé emplir mes poumons. Je n'avais pas besoin de ses pouvoirs, pas encore. Pénélope et Télémaque avaient beau être intelligents, il n'était pas Athéna, et je l'avais tenu à distance pendant 16 ans. S'il pensait pouvoir nuire à mon fils ici, il se trompait. Les sorts qui le protégeaient sur l'île étaient toujours en place. Sa louve ne le quittait jamais. Mes lions montaient la garde sur les rochers. Et j'étais là, moi, sa mère la sorcière.
Très bien.
Montrons-leur donc Ea.